Deutsche Welle, Économie et Développement.
L'Organisation mondiale du commerce vient de souffler ses 20 bougies, mais son bilan reste très mitigé. L'OMC se bat pour sa crédibilité. En décembre, ses pays membres ont enfin signé un accord, le premier depuis sa création, et son avenir est encore sombre. Un autre 20e anniversaire a été célébré, celui de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Mais les années de ségrégation et de racisme ont laissé des traces dans les relations économiques avec le reste du continent. Vous écoutez le magazine Économie et Développement. Claire-Marie Costemano, micro, bienvenue à tous. Le 15 avril 1994 étaient signés les accords fondateurs de l'OMC à Marrakech par 123 pays. Des accords qui ont abouti à près de très longues négociations. Ils ont représenté la plus grande réforme du commerce international depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 1er janvier 1995, l'Organisation mondiale du commerce était officiellement créée. L'institution dont le siège est à Genève en Suisse se décrit ainsi.
Il y a plusieurs manières de considérer l'OMC. C'est une organisation qui s'occupe de l'ouverture commerciale. Une enceinte où les gouvernements négocient des accords. C'est un lieu où ils règlent leurs différends. C'est une organisation qui administre un ensemble de règles commerciales. L'OMC est essentiellement un lieu où les gouvernements membres tentent de régler les problèmes qui les opposent. Le but primordial du système est de faire en sorte que le commerce soit aussi libre que possible, dès lors que cela n'a pas d'effet secondaire indésirable, car cela est important pour le développement économique et le bien-être.
Avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, c'est l'une des grandes organisations qui gère les questions de politique économique et commerciale au niveau mondial. Aujourd'hui, 159 pays en font partie. Lorsque ces travaux ont débuté il y a 20 ans, les attentes étaient grandes. Limiter le protectionnisme, lever les obstacles au commerce et faciliter l'accès des pays au développement au marché des pays industrialisés. Mais la suite a déçu. L'organisation a été prise dans des querelles politiques. Le principe du consensus entre pays membres met en œuvre la règle du « un pays, une voix », ce qui donne un droit de veto à chaque nation et du coup cela rend extrêmement difficile la conclusion de tout accord. Pour Christian Tietje, professeur de droit économique international à l'université de Halle en Allemagne, l'OMC est une relique du passé.
L'Organisation mondiale du commerce est exclusivement tenue par ses membres et donc dépend d'eux. Les manquements sont à mettre sur le compte des États et ils sont particulièrement responsables si l'OMC a échoué à se réformer institutionnellement et à développer le système juridique.
En 20 ans, les échanges de biens et de marchandises se sont accrus dans le monde, mais le domaine du droit du commerce n'est pas allé à la même vitesse. Selon Achim Rogman, il est professeur de droit de commerce extérieur.
Dans l'ensemble, le droit du commerce mondial est vu comme ayant fait presque du surplace ces 20 dernières années. Par ailleurs, l'intégration des pays en développement dans les processus de décision n'a pas beaucoup progressé. Nous devons prendre en compte le fait que la grande majorité des membres de l'OMC est constituée des pays en développement. Mais souvent, ils n'ont pas encore les savoir-faire et les ressources pour défendre leurs intérêts de manière durable dans les négociations.
Cependant, les économistes ne voient pas tout en noir. L'OMC est le seul endroit où les règles du commerce sont discutées. Elle est chargée du règlement des différends commerciaux entre pays, avec 474 traités depuis sa création. Par exemple, un conflit oppose l'Union européenne et la Russie sur une taxe de recyclage imposée par Moscou sur les voitures importées. En décembre, l'OMC a maintenu l'embargo européen sur les produits dérivés du phoque, qui était attaqué par la Norvège et le Canada. C'est ce rôle en matière de respect des règles qu'approuve Simon Evenet, professeur en commerce international à l'université de Saint-Gall en Suisse.
I think two big achievements. One, L'OMC a fait deux grandes réalisations. L'une est l'accession d'un grand nombre de nouveaux pays qui sont très importants, comme la Chine, la Russie ou l'Arabie Saoudite. L'OMC a grandi et a réussi à faire entrer des pays en développement. Et la deuxième réalisation est le résultat du sommet de Bali. Les États membres ont montré qu'ils pouvaient négocier un accord qui favorise le libre-échange. Voilà les deux réussites.
En décembre, l'OMC a conclu un accord qualifié d'historique sur l'île indonésienne de Bali. Cet accord est le premier signé depuis la création de l'organisation. Il a même été accueilli par des larmes par son directeur général, car l'organisation a quasiment joué sa survie. Mais l'accord représente moins de 10% du vaste programme de réforme lancé à Doha, le fameux cycle de Doha. Simon Evenet.
Le succès de Bali est en effet un pas en avant, mais il est clair que l'OMC ne veut pas continuer sur cette lancée. Les États ne sont pas prêts à faire des compromis pour donner un programme de travail ambitieux à l'organisation. C'est pourquoi je pense que les perspectives pour les 5 à 10 prochaines années sont plutôt sombres.
Sans oublier que des ONG continuent de s'opposer à cette régie du monde des affaires. Rappelez-vous les grands rassemblements à Cancun ou à Seattle contre l'OMC. Pour le mouvement altermondialiste ATTAC, la conférence de Bali n'est qu'un accord au profit des multinationales et des plus riches. Merci à Raina Breuer pour les interviews. Dimanche dernier, l'Afrique du Sud a célébré les 20 ans de sa démocratie. Depuis la fin de l'apartheid, le pays a donné la priorité au développement de ses relations avec le reste de l'Afrique. Mais sur le plan économique, la présence sud-africaine reste encore limitée sur le continent. C'est ce qu'explique Laetitia Abchi dans l'interview de la semaine. Elle est directrice à la NEPAD Business Foundation à Johannesburg, qui aide les entreprises sud-africaines à investir dans les infrastructures en Afrique. Elle répond au micro de notre correspondante Valérie Hirsch.
L'Afrique du Sud sait être présente en Afrique. Aujourd'hui, dans sa sous-région, Afrique australe, les entreprises de distribution sont là. Des groupes comme Shoprite ont une présence importante. Il y a des succès dans le secteur des télécoms, mais aussi beaucoup d'échecs dans le secteur minier et puis de l'énergie. Bon, je dirais que même avec ses voisins, c'est difficile. Et ça, c'est quelque chose qui est anormal. Normalement, quand on voit l'Europe, pour les pays européens, 60% du commerce extérieur se fait entre eux, en voisinage. L'Afrique du Sud, c'est seulement 13%. Il y a une volonté politique. Les outils d'accompagnement économique ne sont pas encore en place. Quand les entreprises sont à l'export, qu'elles aient un confort d'être payées. Voilà.
Alors, comment est-ce que les Sud-Africains, les hommes d'affaires, sont perçus ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine arrogance sud-africaine, qu'ils pensent qu'ils peuvent exporter leur modèle économique, leurs pratiques, et qu'ils souvent, en fait, ils ne connaissent pas bien le terrain africain ?
Oui, en fait, quand on est un pays plus développé qu'un autre, enfin, cette arrogance est naturelle et humaine. Ce qui leur manque, je pense, c'est ce goût de l'Afrique. C'est l'histoire qui a amené ça. L'apartheid a été quand même monté sur le racisme et aussi le racisme des Africains sud-africains vis-à-vis des Africains du reste du continent. À partir du moment où on veut commercer avec l'Afrique, il faut absolument qu'il y ait un regard autre sur cette Afrique. Et ça, il faudra forcément du temps.
L'Afrique du Sud, à travers le NEPAD, veut favoriser le développement des infrastructures intra-africaines, régionales, pour favoriser le commerce intra-africain. Par exemple, vous vous occupez de projets en particulier. Vous pouvez en citer un qui marche ?
Bon, il faut savoir que d'un point de vue politique, l'Afrique du Sud est très positionnée sur le corridor nord-sud. C'est le corridor de transport, enfin de développement entre Durban pour monter jusqu'au Caire. C'est une priorité dans le cadre des échanges au niveau de l'Union africaine. Donc la NEPAD Business Foundation est aussi positionnée sur ce sujet. L'Afrique du Sud travaille notamment sur le corridor de Mtwara, qui est au sud de la Tanzanie, pour aller vers la Zambie et vers les Grands Lacs. Il n'y a pas que le port à développer et un contrat de réhabilitation du port qui peut être obtenu pour les Sud-Africains. Il y a du gaz dans cette région et donc l'Afrique du Sud souhaite se positionner sur ce corridor.
On voit qu'il y a d'autres pays africains comme le Kenya ou même le Nigeria qui ont mieux réussi que l'Afrique du Sud ces dernières années dans le développement à la fois de leur économie et du commerce avec le reste de l'Afrique.
Oui, c'est vrai. Je pense que c'est plus facile, oui, pour eux, de ce concept de l'Afrique aux Africains, de s'adapter au niveau des méthodes, de façon de commercer. Le développement de la présence sud-africaine dans le reste de l'Afrique va peut-être prendre un peu plus de temps, mais sur le long terme, risque d'être plus solide.
Quels sont les secteurs économiques où l'Afrique du Sud peut apporter un réel plus au continent ?
En termes de compétitivité et de qualité de service, le secteur financier est très puissant en Afrique du Sud, c'est clair. On parle de grands projets comme Inga, ce projet ne peut se faire qu'avec l'Afrique du Sud. C'est un barrage qui doit nourrir toute l'Afrique en énergie, donc c'est un sujet pas facile. Il est situé dans un pays compliqué et l'Afrique du Sud est le premier acteur à dire si j'investis, il faut que je puisse surveiller mon investissement. Mais les partenariats sont en train de se monter. Aujourd'hui, quand on parle de croissance en Afrique et qu'il y a une confiance en Afrique, c'est autour de projets comme ça où il y a beaucoup d'espoir qui se crée et où les observateurs peuvent voir que les mentalités sont en train de changer.
C'était Laetitia Abchi, directrice à la NEPAD Business Foundation à Johannesburg. Si vous voulez réécouter ce magazine, rendez-vous sur notre site dw.de/français/médiathèque et pour nous écrire français@dw.de. Au revoir et à bientôt.